Il y avait une déesse nommée Thétis, qui avait été aimée de Zeus et de Poséidon, mais que les dieux avaient forcée à épouser un petit humain pouilleux, Pélée. Pélée en était gaga. Il était heureux. Thétis ne l'était pas. Elle détestait cet appendice mortel qui faisait mariage avec elle. Alors, quand ils ont eu des enfants, elle a voulu les débarrasser de toute forme d'humanité en eux. Et chaque fois qu'un enfant est né, elle a fait un feu et elle a mis l'enfant à brûler dans le feu. Ainsi, toute forme d'humanité en a disparu. Elle a fait ainsi avec son premier enfant, avec son deuxième, son troisième, quatrième, cinquième, sixième, septième. Mais quand elle a allumé le feu pour ce septième enfant, Pélée enfin a trouvé la force d'intervenir et de dire: ça suffit. Tu ne peux pas faire ça. Celui-là, non, je le garde. Thétis l'a regardé. Elle n'avait même pas imaginé qu'il puisse l'affronter sur ce terrain. Elle a craché par terre. Et elle a dit: si c'est comme ça, débrouille-toi avec lui. Et elle est partie. Pélée s'est retrouvée avec un petit bébé dans les bras sans trop savoir qu'en faire. Il l'a nommé Achille. Puis il l'a élevé comme il a pu. Il a engagé les meilleures nourrices. Il savait que cet enfant était promis à une grande destinée. Une prophétie avait dit que l'enfant qui sortirait du ventre de Thétis serait bien plus puissant que son père. C'est pour ça que ni Zeus ni Poséidon n'avaient voulu l'épouser. Et lui, ça lui donnait une telle responsabilité d'avoir cet enfant, là, promis à une destinée incroyable. On dit aussi que Thétis ne l'a pas complètement abandonné, cet enfant. On dit qu'alors qu'il était encore tout petit, alors qu'il dormait tranquillement dans son lit une nuit, elle est venue l'enlever sans faire de bruit. Elle l'a emmené jusqu'aux enfers. Là, elle l'a regardé longuement, cet enfant. Elle l'a amené jusqu'aux rives du Styx. Et là, elle l'a trempé dans l'eau du Styx pour conférer à sa peau l'invulnérabilité. C'est là aussi qu'elle a remarqué que de ce feu qu'elle avait fait brûler pour sa naissance, pour le faire disparaître, il lui en était resté une blessure. Si l'enfant n'avait pas brûlé, son talon, lui, avait été marqué par ce feu. Elle n'a rien fait de plus, elle n'a rien dit de plus, elle est allée redéposer l'enfant dans son lit et personne d'autre n'en a jamais rien su. L'enfant a grandi. Cette fois, les nourrices n'étaient plus à la hauteur. Il fallait un précepteur, et le meilleur des précepteurs qui soit. Alors Pélée a aussitôt pensé à Chiron, celui qui avait pris en charge l'éducation de Jason. Un centaure, mais pas un centaure aviné et sanguinaire comme les autres. Un centaure très calme, très sage, très doux. Et en même temps, très fort, très stratège. Et Chiron a élevé Achille. Et il en a fait un puissant guerrier. Et Chiron a élevé Achille. Mais Achille avait une faiblesse. C'était ce talon qui avait été brûlé lors de ce premier feu, qui le faisait légèrement boiter, très légèrement. Alors Chiron est allé déterrer le cadavre d'un géant. Un géant qui était mort, non loin de là, lors de la grande guerre entre les dieux et les géants. Et il a récupéré le talon de ce géant. Et il a mis le talon de ce géant à la place du talon brûlé d'Achille. On dit que ce géant était un immense coureur. et que c'est grâce à ce talent qu'Achille est devenu un si grand coureur lui aussi, et qu'on l'a surnommé Achille aux pieds légers. Mais on dit aussi que c'est ce talon qui n'a pas été plongé dans le Styx, c'est ce talon qui a conféré à Achille sa faiblesse et sa vulnérabilité. Très vite, le prestige d'Achille s'est répandu. Son nom a circulé dans toute la Grèce. Et quand Agamemnon et Ménélas sont allés faire le tour de tous ceux qui avaient prêté serment pour aller chercher Hélène à Troie, nombreux sont les oracles et les devins qui ont dit que leur projet ne pourrait pas aboutir s'ils n'avaient pas avec eux Achille. Pélée était fier. Il était fier que son fils, avant même d'avoir accompli le moindre exploit, devienne indispensable. Mais presque aussitôt après, un autre oracle a révélé qu'Achille partirait à Troie, qu'il accomplirait de grands exploits, mais qu'il mourrait devant les murailles sans même entrer dans la ville. Et si jeune. Alors Pélée a eu peur pour son fils. Et tout d'un coup, la gloire n'a plus eu aucun intérêt. Et tout d'un coup, il a voulu mettre son fils en sécurité, que son fils puisse avoir des enfants, les voir grandir, qu'ils aient eux-mêmes des enfants, les voir grandir. Et il a été caché, son fils Achille, chez l'un de ses amis, le roi Lycomède. Le roi Lycomède adorait les femmes. Il les aimait tellement qu'il avait un harem avec 50 femmes. Et c'est dans ce harem qu'on a caché Achille. Et on dit d'Achille qu'il était si beau, qu'il avait les traits si fins, une chevelure blonde si longue, que quand on lui passait des vêtements de femme, il était impossible d'imaginer que ça puisse être un homme. Alors, caché au milieu du harem, personne ne l'a reconnu. Et quand Agamemnon et Ménélas sont venus trouver Lycomède, ils avaient entendu dire que c'était là qu'Achille était caché. Lycomède leur a dit: Mais Achille, le grand héros, au milieu de mes femmes, vous voulez rire? Venez voir. Ils ont été voir et ils ne l'ont pas trouvé. On dit que c'est Ulysse qui a trouvé la solution. Ulysse est venu. Et il ne s'est pas fait passer pour un ambassadeur. Il ne s'est pas fait passer pour un roi. Il s'est fait passer pour un marchand. Un marchand de babioles et de colifichets. Il est venu avec un grand drap dans lequel il avait mis des peignes, des foulards, des parfums, des bijoux, des broches. Il est entré dans le harem de Lycomède. Il a déroulé ce grand tissu avec tous ces objets. Et les femmes du harem se sont toutes approchées, et chacune a regardé, et chacune a choisi un objet. Mais parmi toutes ces babioles et ces colifichets, Ulysse avait glissé une épée. Une épée particulièrement bien travaillée, particulièrement bien équilibrée, particulièrement bien ornée. Et Achille, qui n'avait pas touché à une arme depuis qu'il était entré dans le harem, n'a pas pu résister. Il a pris l'épée entre ses mains. Il l'a fait tournoyer. Il a joué avec, il l'a dressée. Ulysse l'a laissé faire un temps, puis il s'est approché de lui et lui a dit: Allez, viens. Je t'emmène, ta place n'est pas ici, ta place est au combat, devant les murs de Troie. Allez, viens. Avant de quitter le harem, Achille a échangé un long regard avec l'une des femmes du roi Lycomède. Pendant le temps où il était resté caché dans le harem, il l'avait aimé. Et elle l'avait aimé, et il savait qu'elle était enceinte de son enfant au moment où il allait partir. Il y avait dans son ventre
celui qui sera nommé Néoptolème. Il a regardé cette femme l'a regardé, et puis il a senti qu'elle lui disait « Va ». Alors il est parti. Il a suivi Ulysse jusqu'au port, jusqu'à son bateau. Mais au moment de grimper sur le bateau, une femme l'a arrêté. Une femme qu'il ne connaissait pas, une femme qui n'avait pas l'air d'une princesse, qui n'avait pas l'air de grand-chose, et qui lui a dit « Si tu pars, tu auras la gloire, et ton nom sera connu pour les siècles des siècles, et même peut-être pour des millénaires. Si tu pars, tu deviendras un grand héros, mais tu mourras jeune. Si tu restes, tu vivras vieux auprès de ton père, et tu verras tes enfants grandir, et tes petits-enfants aussi, et tu seras heureux. Mais personne ne se souviendra de ton nom. Alors, quel choix fais-tu ? » Dans les yeux de cette femme, Achille a reconnu sa mère. Il a hésité un instant, puis il a souri, il l'a saluée, et il est monté sur le bateau d'Ulysse, en route vers Troie.